Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Le 9 août 1974, le président américain Richard Nixon démissionne. Acculé par la justice et honni par une partie du pays, il choisit ce geste inédit dans l'histoire des États-Unis pour éviter le déshonneur d'une destitution qu'il sait inévitable. Le célèbre scandale du Watergate aura eu raison de lui. Pourtant, tout avait bien débuté pour Richard Nixon. Né en 1913 en Californie, dans un milieu modeste, étudiant brillant, il devient avocat en 1937. Il entame après-guerre une remarquable carrière politique dans le camp des Républicains. Élu à la Chambre des représentants à seulement 33 ans, sénateur à 37, il devient le vice-président du très respecté président Eisenhower à 39 ans en 1952. Sa réussite lui vaut très tôt le surnom de Tricky Dick, qui lui collera à la peau, comprenez, Richard le Tricheur, car ses adversaires attribuent son ascension à ses coups tordus. L'ascension est fulgurante, mais de premier déboire s'annonce. Nixon est battu à l'élection présidentielle de 1960 par John Fitzgerald Kennedy avant de perdre 2 ans plus tard celle au poste de gouverneur de Californie. Ces défaites lui laissent un goût amer. Il reprend alors sa carrière d'avocat et aurait bien pu ne jamais entrer dans les livres d'histoire. Mais son ambition le ramène bien vite à la politique et le candidat Nixon remporte l'élection présidentielle de 1968, portée par la majorité silencieuse qu'il incarne, libérale et conservatrice. Sa présidence laissera a posteriori un sentiment ambivalent. Farouchement anticommuniste, Nixon rencontre pourtant Mao Tse-tung en 1972 et normalise les relations avec la Chine. Il est aussi l'artisan de la détente avec l'URSS, limitant la course aux armements. Paradoxalement, même s'il fait pleuvoir des tapis de bombes sur le Cambodge et le Laos pendant la guerre du Vietnam, il est le président qui désengage l'Amérique du conflit et signe les accords de Paris en 1973, actant le retrait américain faute de victoire. À l'international, Richard Nixon préfère le soutien financier à l'engagement militaire et se veut le président de la paix. Ce qui n'empêche pas la CIA de s'impliquer dans de sombres affaires politiques et financières en Amérique du Sud, notamment celle de la junte de Pinochet au Chili. Ambivalent, disais-je. Aux États-Unis, Nixon participe aussi à la déségrégation dans les États du Sud et lance un programme de discrimination positive. Il fait preuve d'un esprit pionnier dans la protection de l'environnement, comme des premiers droits sociaux. Nixon paraît à la fois moderne et dépassé, incapable de comprendre cette jeunesse issue du baby-boom qui veut changer le monde et ne supporte plus d'aller mourir dans les hostiles marécages du Vietnam. Nixon est cultivé, il est bon orateur. Il manie bien l'exercice télévisuel de son temps, mais ne cache pas son animosité pour la presse. Et c'est justement elle qui causera en partie sa perte. Comme vous le disiez, Mathieu, d'un homme déchu, on ne retient souvent que la chute. Et c'est classiquement par le scandale que la chute arrive. En juin 1972, en pleine campagne présidentielle, Nixon, le républicain, joue sa réélection. 5 intrus sont arrêtés au siège du Parti démocrate qui occupe le Watergate, vaste bâtiment qui surplombe la rivière Potomac à Washington, D.C. Rapidement, des liens apparaissent entre ceux qu'on prenait pour de simples cambrioleurs et l'entourage du président. L'enquête ne va pas bien loin et Richard Nixon est triomphalement réélu en novembre de cette même année, 1972. Mais l'obstination de 2 journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, liée à celle du juge John Sirica, qui s'occupe du procès des cambrioleurs, va faire basculer l'affaire. Les 2 journalistes enquêtent minutieusement sur les liens entre les 5 hommes qui ont pénétré dans l'enceinte du Watergate et la Maison Blanche. Ils sont aidés par des informateurs anonymes. Le plus précieux se surnomme lui-même « Gorge profonde ». On apprendra bien plus tard, en 2005, qu'il s'agit en fait du numéro 2 du FBI, probablement vexé de ne pas avoir été nommé numéro 1 par Nixon. Entre coups de fils étranges et rencontres nocturnes dans des parkings dignes d'un polar, Gorge profonde guide les reporters qui publient de nombreuses informations sur les agissements du camp Nixon. Le juge Sirica pousse les prévenus dans leur retranchement. Des révélations éclatent et l'entourage de Nixon est mis en cause. La majorité démocrate au Sénat s'empresse de lancer une commission d'enquête. Le bras de fer s'engage avec un président qui refuse de soumettre les employés de la Maison-Blanche aux interrogatoires, arguant de la séparation des pouvoirs. Mais la machine est lancée. Des proches du président sont inculpés et les vérités se font jour sur l'espionnage et les obstructions à la justice. On découvre aussi que de nombreuses conversations au sein de la Maison-Blanche sont enregistrées. Le procédé n'est pas nouveau, il sert à la prise de notes. Mais il l'est, sous l'ère Nixon, déployé secrètement et à large échelle. Dès lors, le procureur somme la Maison-Blanche de transmettre les bandes qui constitueront sans nul doute des preuves sur l'implication du président. Mais Nixon refuse. Suite à son insistance, le procureur est limogé. L'effet est dévastateur dans l'opinion publique qui se passionne pour les auditions de la commission d'enquête retransmises à la télévision. Les Américains découvrent stupéfaits ces pratiques de barbouze. Les démissions s'enchaînent, l'étau se resserre autour du président qui se défend, niant avoir été au courant de ses agissements. Mais le Congrès lance la procédure d'impeachment, la destitution. En juillet 1974, la Cour suprême exige de Richard Nixon qu'il remette les enregistrements. Le président n'a plus le choix. Il pense peut-être pouvoir encore passer au travers, mais les enregistrements démontrent qu'il savait et qu'il a voulu étouffer l'affaire du Watergate. Coincé, conscient qu'il n'aura pas assez de soutien au Congrès, Nixon préfère éviter l'infamie du procès et de la destitution, et il démissionne le 9 août en direct à la télévision avec un discours dans lequel il ne reconnaît rien. Ça vous ennuie pas, Mathieu, de faire le président Nixon qui démissionne ?
Ça m'ennuie pas du tout, mes parents étaient traducteurs à l'ONU.
I have never been a quitter.
Je n'ai jamais été un lâcheur.
To leave office before my term is completed is
abandonner ma charge avant son terme heurte toutes les fibres de mon corps.
But as president,
mais en tant que président,
I must put the interests
je dois placer l'intérêt de l'Amérique d'abord.
America needs a full-time
L'Amérique a besoin d'un président à plein temps
and a full-time Congress
et d'un Congrès à plein temps.
To continue to fight through the months ahead for
la poursuite du combat au cours des prochains mois pour ma cause personnelle absorberait presque totalement le temps et l'attention du président et du Congrès. Donc, je démissionnerai de la présidence demain à midi.
Vous faites bien le président.
Vous
Mathieu.
Aimez bien quand je fais Nixon ?
Oui, très bien. La chute est terrible et douloureuse. Nixon est néanmoins rapidement gracié par son vice-président Gerald Ford qui a automatiquement pris sa place. Cette grâce interrompt toute enquête et évite une condamnation mais ne fait qu'ajouter à la veulerie du président qui refuse de faire face à ses propres turpitudes. Étrangement, pourrait-on penser, Richard Nixon sera petit à petit réhabilité, prodiguant des conseils en politique étrangère, vanté même pour ses visions politiques. Mais la mise à disposition des centaines d'heures d'enregistrement de la Maison-Blanche montre un homme dur, parfois grossier, peu avare en réflexions racistes, homophobes ou antisémites. Depuis, l'image du président déchu varie au gré des articles et des biographies, mais il demeure compliqué de redorer un blason si profondément entaché.
Europe 1, historiquement vôtre.